Nous allons continuer, deuxième partie, sur cet enseignement important pour que chacun soit bien enseigné sur tout ce qui touche les dons spirituels, la vie de l'esprit, parce que la Bible en parle, et en tant que serviteur de Dieu et pasteur de cette Église, autant que Dieu me donnera la possibilité de le servir ici, je vous enseignerai tout ce qui est écrit dans la Bible. Je ne passerai à rien sous silence. Je dirai ce qu'il faut lire, j'annoncerai ce qu'il faut annoncer, je prêcherai ce qu'il faut prêcher, parce qu'il faut que vous soyez bien ancrés, solidement ancrés, gloire à Dieu. Il y a la nouvelle naissance, ça c'est bien, c'est le début. Et tous les prédicateurs qui ont un ministère d'évangélistes, et j'en connais quelques-uns, tels que Franck Alexandre, qui est un ami, eh bien, quand ils annoncent l'évangile, ils vont parler du pardon, qui doit agir dans le cœur, intérieurement, dans l'âme. Mais en même temps, quand il y a le pardon qui se manifeste parce qu'on se tourne vers Jésus, ensuite on n'en reste pas là, on ne demeure pas là, on progresse avec Dieu. Et pour progresser avec le Seigneur, il faut petit à petit sortir de ce qui est le béaba, l'ABC, et il faut rentrer un peu plus en profondeur. D'accord ? Alléluia ! Afin de fonder notre vie sur le rocher qui est Jésus-Christ et qui est aussi la parole du Seigneur. On lit le texte qui nous intéresse, le texte de base, bien sûr, bien qu'il y a beaucoup de versets, on y reviendra, parce qu'il y a 1 Corinthiens 14, là je parle maintenant de 1 Corinthiens 12, et il est écrit ceci, verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Gloire à Dieu, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est communiquée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est communiquée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, les communiquant à chacun en particulier, comme il veut, et je rajouterai, au moment voulu. Et puis, la dernière fois, ça me permet de faire un rappel, puisque nous avons vu chaque groupe. Donc, des dons spirituels, trois groupes de trois dons. Le premier, c'est le groupe de révélation, ensuite le deuxième de puissance, le troisième d'inspiration. Ça fait 9 dons spirituels qui, je le rappelle, eh bien, sont entre eux, ils s'entrecroisent, ils sont actifs entre eux, plusieurs se manifestent au moment où il le faut. Alors, j'ai beaucoup insisté également sur le fait qu'il faut aspirer, dit la Bible, aux dons les meilleurs. Aspirez, désirez avec ardeur, désirez avec zèle cette possibilité spirituelle qui nous est donnée de communiquer les dons spirituels pour l'utilité de l'Église, pour l'utilité du salut des âmes. On va y revenir, car là nous sommes à la deuxième partie, il y en aura une troisième et peut-être une quatrième. Mais, ceci étant dit, il faut qu'il y ait des motivations pures. Quand on désire, quand on aspire aux dons spirituels, j'y reviendrai encore, il faut bien sûr être né de nouveau, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Ensuite, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une promesse qui est encore disponible aujourd'hui pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et alors, on peut vivre les dons spirituels. Et voyez-vous, pour aspirer à ces dons les meilleurs, il faut des motivations pures. Afin que Dieu soit glorifié à travers nous et que l'Église soit encouragée. Pour recevoir, il faut donc être un instrument donc ouvert, disponible, afin que nous soyons ensuite un instrument béni. Alors il faut renoncer à tout ce qui touche à notre personne. Il faut renoncer à tout ce qui pourrait nous amener à ne pas nous abandonner. J'avais prêché un message, ne pas lâcher prise entre les mains du Seigneur et de se laisser contrister, attrister, bloquer, verrouiller par ma propre chair et mon entendement purement humain. Le Seigneur veut nous faire entrer dans ce qui est spirituel. Et il est vrai que l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, il va parler de l'homme charnel et de l'homme spirituel. Ce que Dieu veut que nous soyons, c'est des hommes spirituels. Quand nous restons, nous demeurons, ou nous retournons vers l'aspect charnel, alors ce qui est spirituel ne peut pas se manifester. Ne peut pas. N'est pas possible. Mais nous voulons, j'en suis convaincu, être des instruments bénis. Alors il faut s'abandonner dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est que là que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut à travers nous. Qui le veut ? Alléluia. Eh oui. Et si vous avez du mal à lever la main, c'est qu'il y a un problème de spontanéité que vous ne voulez pas. À part que vous n'ayez pas entendu. Qui le veut ? Alléluia. Le but de cet enseignement sur les dons spirituels que j'ai commencé il y a 15 jours en arrière permet d'effectuer, et ça me semble important pour toutes nos églises qui croient dans la vie de l'esprit, la Pentecôte, d'effectuer des réglages spirituels et d'être ainsi dans le cadre biblique, doctrinal, voulu de Dieu, qui est indispensable d'ailleurs ce cadre-là, ce réglage-là spirituel par rapport aux dons spirituels et à la vie de l'Esprit qui doit être vécu, et ce matin ça a été le cas, et que ça se multiplie au sein de l'église de Groyer et de toute autre église, bien sûr. C'est indispensable à un bon exercice des dons spirituels. C'est indispensable à une meilleure appréciation des dons spirituels. Et puis, c'est indispensable pour les vivre, selon l'analogie de la foi, comme dit l'Écriture, et les règles de l'amour, car 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, qui nous parle des dons spirituels, de l'exercice des dons spirituels, de la manière de les vivre dans le cadre biblique et doctrinal de Dieu, il y a le chapitre 13 qui nous parle de l'amour. J'y reviendrai. Les règles de l'amour, l'analogie de la foi. Et que le Seigneur puisse dire de son église de Groyer, il ne lui manque aucun don. Quelle richesse ! Il ne lui manque aucun don. Et c'est à cette condition que l'église locale pourra pleinement et jusqu'au bout remplir, bien sûr, c'est important, on s'y attache, et c'est normal, remplir correctement la mission d'évangélisation du monde qui nous a été confié. Le vocabulaire qui désigne donc les dons spirituels indique leur nature à ces dons. Il s'agit de choses spirituelles. Il s'agit des choses spirituelles, pas charnelles, pas humaines, pas terrestres, spirituelles, divines. Et l'apôtre Paul va dire, au verset 1er, 1 Corinthiens 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Les dons sont donc des grâces accordées. J'insiste là-dessus. Les dons sont des grâces accordées. Le mot pour traduire cela, c'est le mot en grec « charisma ». Et ce mot « charisma », sa racine, c'est « charis ». Et « charis » en grec, ça veut dire « grâce ». Et en définitive, l'accent est mis sur le fait que les œuvres n'y sont pour rien. C'est une grâce. C'est une faveur qu'on ne mérite pas. Et je vais beaucoup insister là-dessus. Comme pour le salut, comme pour tout ce qui vient de Dieu. Et ce matin, il y avait un don spirituel qui allait dans ce sens-là, d'ailleurs. Gloire à Dieu. Il disait à quelqu'un, mais ce n'est pas tout ce que tu vas faire, tous les kilomètres que tu vas parcourir, tout ce que tu vas pouvoir accomplir, etc., qui va te mettre dans une position agréable à Dieu. Si tu peux faire ceci ou cela, c'est bien parce que c'est une grâce. Si je suis là ce matin, c'est bien une grâce. Si je peux vivre ce que Dieu me permet de vivre, c'est une grâce. Le salut, c'est une grâce. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Ce n'est pas par le produit des efforts humains que nous sommes sauvés, mais c'est par grâce. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne dise, voyez, je suis quelqu'un de formidable, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, 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 non. On ne peut rien faire valoir. La seule chose que nous pouvons faire valoir, c'est ce que Dieu nous donne, par grâce. Et le salut en fait partie. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, c'est un don de Dieu, le salut. Et de la même manière, les dons spirituels, ce sont des grâces. Pour l'utilité commune, non pas pour me faire plaisir, moi, vous, qui que ce soit, hommes et femmes, nés de nouveau. Non, c'est pour que nous puissions ne jamais perdre de vue que nous sommes avant tout appelés à être des instruments entre les mains de Dieu. L'accent donc est mis sur le fait que les œuvres n'y sont pour rien pour les dons spirituels. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète parce que c'est tellement important, que la condition de vivre, pour vivre pardon, les dons spirituels est la repentance, la conversion à Dieu, par la foi en Christ, l'obéissance à Dieu, j'y reviendrai, la loyauté, la droiture malgré tout, parce qu'il faut être un instrument ouvert, propre, sanctifié. Pour la réception du don du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, donc la repentance et la conversion sont indispensables et incontournables. Acte 2, verset 38. Afin de recevoir le Saint-Esprit dans le cadre du baptême dans le Saint-Esprit et ensuite les dons spirituels pour l'utilité commune, l'Église et le salut des âmes. Il faut avoir, pour les recevoir, les dons spirituels, la même attitude de foi que celle qui nous a permis de recevoir le salut par grâce. Avez-vous la foi pour vivre les dons spirituels? Vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit, avez-vous vraiment cette foi, cette confiance? Vous qui êtes nés de nouveau, convertis, pour demander au Seigneur, eh bien, le baptême du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit dans votre vie, car il a dit qu'il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Mais par la foi. C'est la foi, cette confiance dans ce que Dieu promet qui me permet de recevoir. Mais en même temps, la foi, et je l'avais déjà dit dans une prédication, ne peut pas être dissociée de l'obéissance. Paul parlera de l'obéissance de la foi. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, quand on a cru en Jésus-Christ, normalement, il y a l'obéissance à Dieu, à sa parole, aux injonctions de son esprit. Car acte 5, 32, il est écrit « De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent ». Également, la piété est importante. Paul en parle à Timothée. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. Il écrit « utile à peu de choses ». Ce n'est pas la priorité, mais ce monde en fait une priorité. Mais la Bible dit que la piété, par contre, elle est utile à tout. La piété, c'est, et on en parlera très certainement à la rentrée, la piété, c'est adorer Dieu, la piété, c'est de faire Dieu, eh bien, de Dieu, pardon, la première personne dans ma vie. La piété, c'est obéir à Dieu, la piété, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. La piété, ça inclut beaucoup de choses. La piété nous amène à aimer la prière. La piété nous amène donc à aimer la parole. Non pas pour l'écouter et remplir notre intellect et ressortir cela machinalement, mais on n'a rien compris. Non, mais la piété nous amène à mémoriser la parole pour qu'elle ait un impact dans ma vie. La foi, l'obéissance, la piété, même s'il en faut, malgré tout, je voudrais équilibrer les choses. Ce n'est pas la cause première, puisque c'est une grâce. Sinon, si je disais que c'est la priorité, si c'est la cause première, je me contredirais. Et je n'irai pas dans le sens de la doctrine, mais c'est une grâce. Mais malgré tout, cette grâce, elle va se manifester, donc les dons spirituels, leur réception, comme le baptême dans le Saint-Esprit, bien sûr, avant, par rapport à la nouvelle naissance qui se reçoit par la foi en Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix, il faut malgré tout la foi, donc l'obéissance et la piété, mais avant tout, n'oublions pas que c'est une grâce. Et dans le livre des Actes, au chapitre 3, et au verset 12 d'ailleurs, alors que, cela est noté, alors que Pierre et Jean qui montaient au temple, donc à l'heure de la prière, le temple de Jérusalem, ils vont être confrontés là à une situation compliquée, d'une vie en difficulté, d'une vie touchée par et impactée par un problème de santé depuis des années. C'est cet homme boiteux qui est amené chaque jour pour faire le monde à cette porte de ce temple de Jérusalem qui s'appelle la porte la belle, appelée la belle. Et Pierre et Jean vont vivre, et j'y reviendrai quand je parlerai des dons spirituels vécus dans la vie et le ministère de Pierre. Mais Pierre et Jean vont vivre ensemble les dons spirituels. Et cet homme va être guéri au nom de Jésus. Il va être rétabli au nom de Jésus. Le miracle va se produire au nom de Jésus. Et pourquoi j'insiste en disant au nom de Jésus? Parce que Pierre va voir le peuple, la réaction du peuple, les paroles qui circulent parmi ces gens. Et il va dire aux Israélites, « Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela, donc de cette guérison ?» Pourquoi avez-vous les regards fixés, dit Pierre, sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre, ce qui a marqué, par notre piété, que nous eussions fait marcher cet homme? Non. C'est par la puissance du nom de Jésus. D'ailleurs, il le dit après. Il rééquilibre. Il est en train de leur faire passer ce message à nous avec. Que ils ont de la piété. Ça va de soi, ils vont prier. Ils ont, bien sûr, de la puissance parce qu'ils sont revêtus du Saint-Esprit. Ils sont revêtus de la puissance et de cette plénitude de l'Esprit. Ils vivent les dons spirituels, je l'ai dit, ça vient de se manifester, j'en parlerai plus tard. Mais il est obligé de tout rééquilibrer en disant « Non, non, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause du nom de Jésus. C'est une grâce. » Et quelque part, bien si Pierre et Jean n'avaient pas été bien équilibrés spirituellement, ils auraient pu tomber sous le coup de l'orgueil. Parce que les hommes israélites, les gens qui étaient là, qui n'étaient pas éclairés, on peut le comprendre, ils disaient, oh là là, ils sont puissants, oh là là, quelle piété, oh là là, ils sont formidables. Ils ont dit, oui, c'est vrai. Non. Ils ont tout ramené dans l'équilibre, c'est au nom de Jésus, c'est par Jésus, c'est par sa puissance, c'est parce qu'il a tout accompli à la croix. C'est parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Il est en train de leur dire, vous, hommes israélites, comme à nous tous, comme à qui que ce soit encore aujourd'hui, par rapport au salut, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en qui? Non pas en l'homme, mais si tu crois en Jésus. Les dons, mes bien-aimés, ils témoignent de quoi? Il témoigne de la bonté de Dieu. Et donc, par rapport à ce que je viens de dire, il témoigne de la bonté de Dieu et non de la super spiritualité de ceux qui l'utilisent. Les dons spirituels, quand ils sont vécus, je l'ai dit il y a quelques instants, avec Pierre et Jean, comme exemple, ils ne permettent pas de tomber dans l'orgueil, normalement, les dons spirituels. Ni le salut que nous avons reçu par grâce, ni la position de piété que nous avons choisie, ni la position d'obéissance aux injonctions du Saint-Esprit. Non. Mais au contraire, ils nous permettent de réaliser que notre Dieu, notre Seigneur est au-dessus de nous, au-dessus de tout, et qu'il contrôle tout. Si Dieu utilise quelqu'un dans ce domaine, ce n'est pas qu'il l'approuve ou qu'il l'aime davantage que les autres. C'est parce que Dieu aime l'Église. C'est parce qu'il veut édifier l'Église. En définitive, ce que Dieu bénit, c'est pas l'homme, dans une certaine mesure, si vous me comprenez, c'est sa parole. Mais il faut quand même que nous soyons sérieux. Parce que Dieu honorera toujours sa parole, mais nous voulons qu'il nous honore aussi. Nous voulons qu'il nous approuve aussi. Nous voulons que même si nous vivons les dons spirituels, si nous vivons la vie de l'Esprit, si nous vivons dans la piété, il faut qu'il nous approuve. Et pour qu'il nous approuve, il faut rester sur le tour du divin potier. Dieu aime l'Église. Il veut l'édifier. Car c'est son Église. Je le dis en ce moment parce qu'il faut rectifier certaines choses. Ce n'est pas votre Église. Quand bien même vous l'auriez construite, cette Église, ce n'est pas votre Église. Ce n'est pas mon Église. Je le disais, je crois, hier, avec les frères, lors de notre réunion, hier après-midi, il m'est arrivé souvent de croiser des personnes, quand je salue les gens, dire « Ah, c'est votre Église ?» Et je leur dis « Non. » « Ah, d'accord. Où est le pasteur alors ?» Ben, j'y sais moi. Donc c'est votre Église. Je dis non, c'est pas mon Église. C'est étonnant cette mentalité. En plus, c'est pas biblique, c'est pas spirituel, c'est pas doctrinal. La Bible dit, Jésus n'a pas dit, je bâtis ton Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Elle appartient à Jésus, l'Église. C'est son épouse, il en est l'époux. C'est ce que nous enseigne la Bible. Soit je crois dans la Bible, soit je crois dans n'importe quoi. Alors à ce moment-là, c'est grave. Je bâtirai mon Église. Et le Seigneur veut la bâtir avec nous. Et il veut la bâtir par le moyen aussi des dons spirituels. Il les a pas donnés comme cela. Il les a donnés pour un but précis. Et on l'a souligné ce but tout à l'heure. Donc Dieu donne ses grâces à des gens, à des personnes qui les désirent et qui aspirent, on revient sur ce mot, avec zèle, avec ardeur. De vivre les dons spirituels, c'est là notre part. Et puis vous avez lu avec moi 12:1, il veut l'apôtre Paul pour l'église de Corinthe, mais il le veut aussi le Seigneur, encore aujourd'hui, dans nos églises du 21e siècle, des temps de la fin. Il veut que chaque croyant, vous qui marchez avec le Seigneur depuis des années, ou depuis peu de temps, nouvellement baptisés, ceux qui arrivent depuis peu de temps ou qui reviennent dans l'église, il veut que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Et j'ai remarqué que le gros problème... C'est qu'aujourd'hui, quand les prédicateurs, je parle au pluriel, prédicateurs, prêchent la parole, enseignent la parole, les chrétiens entendent, et quand ils arrivent chez eux, au lieu de retenir ce qui a été prêché selon la doctrine biblique, ils vont sur Internet pour écouter n'importe quoi. Tout ce que je prêche ce matin est vérifiable dans la Bible, dans le contexte biblique. C'est pour ça que je bénis Dieu pour ceux qui ouvrent leur Bible et qui regardent. Moi, ça ne me dérange pas. Et il faut faire cela. Ne pas être dans l'ignorance. Et en introduisant le chapitre 12 des Corinthiens, Paul donc expose son but. À savoir que les membres de l'Église ne soient pas dans l'ignorance. Et cette ignorance ne concerne pas l'existence des dons spirituels, parce que quand tout le monde lit la Bible, ils savent qu'il y a 9 dons spirituels. Donc ça, c'est avec la tête, notre mémoire, notre raisonnement, notre intelligence. Mais le problème, c'est qu'il y a une ignorance au sujet du rôle des dons spirituels, au sujet de leur fonction, au sujet de leur place dans les réunions de l'Église et dans le témoignage. Les Corinthiens étaient parfaitement au clair avec la réalité des dons, mais ils n'étaient pas du tout au clair, un peu moins au clair, avec leur usage, pardon. Parce que Paul va dire en Corinthiens 14, 12, il est obligé de leur dire, il leur dit, eh bien les dons spirituels vont contribuer à l'édification commune. Le mot édifier, ça veut dire construire. Les dons spirituels ne sont pas là pour meubler. Mais ils sont là, mes frères et sœurs, pour être vécus, pour la construction de l'Église. Et quand j'entends dire aujourd'hui sur Internet, parce que j'écoute, mais seulement je sais faire le tri parce que je suis attaché à la parole, je connais la doctrine. Mais le problème, c'est que certains, peut-être d'entre vous, n'êtes pas encore au clair avec certaines choses. Et vous pouvez tomber sur du poison, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mes frères et sœurs, lisez la Bible. Arrêtez d'écouter n'importe qui sur Internet. Lisez la Bible. Lisez l'Évangile. Méditez la parole de Dieu. Plongez votre regard là, dans la parole. Et recevez l'enseignement, bien sûr, des ministères dons éprouvés. J'ai bien dit éprouvés, reconnus, sérieux. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une époque où il est dit tout et n'importe quoi. Et nous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, je reprends les ministères dons de Christ, les pasteurs enseignants, les évangélistes, dans le cadre de nos églises où il y a du sérieux, nous nous évertuons de dénoncer les erreurs. Non pas que nous sommes en train de dire « c'est nous les meilleurs », non, mais la Bible dit, la parole de Dieu dit, la doctrine biblique est là, la doctrine de Dieu est là. Et mes frères et sœurs, quand vous écoutez Paul parler à Timothée, c'est ce que nous sommes en train de voir le mardi soir, dans le cadre de nos études bibliques, nous nous rendons compte que Paul dit à Timothée « attention, il viendra un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, alors ils vont courir à droite, alors ils vont courir à gauche, alors ils vont aller ici et là pour essayer à trouver un enseignement qui correspond à leurs désirs. » Mais ils se détourneront de la vérité, ils se détourneront de la doctrine, ils se détourneront de ce qui fait la force d'un chrétien. Et le diable est rusé. Souvenez-vous comment il a tenté Jésus, alors que Jésus venait de jeûner 40 jours et 40 nuits dans le désert, où il a été conduit par le Saint-Esprit, et il lui a posé certaines questions, il l'a mis devant certains défis, le diable, en lui disant « écoute, fais ceci, fais cela, il est écrit, mais Jésus à chaque fois le ramenait vers la parole et lui disait « mais il est aussi écrit » pour contrecarrer le diable. Le seul moyen pour les dons spirituels, pour que nous les vivions, pour qu'ils prennent toute leur ampleur, pour qu'ils dégagent toute leur senteur, toute leur substance, il faut que je les connaisse dans leur rôle, leur fonction, leur place, dans le cadre de l'Église. Parce qu'ils contribuent à l'édification commune. Le but suivi par l'enseignement de Paul est de donner un sain équilibre dans la pratique des dons. Et cet équilibre est selon le sage conseil, 1 Corinthiens 14, 40, aspirez aux dons spirituels, n'empêchez pas bien sûr qu'il s'exerce, mais que tout se fasse, mais que tout se fasse, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Personnellement, en tant que serviteur de Dieu, que ce soit ici, je l'ai fait ailleurs, quand je m'aperçois que, et c'est aussi le travail de mes collaborateurs anciens, quand on s'aperçoit que quelqu'un, eh bien, part un petit peu, excusez-moi l'expression, en vrille, il faut rapidement s'approcher, lui dire, calmez-vous. Ou prendre la personne, je l'ai déjà fait, et l'amener, et essayer à l'aider, à lui faire comprendre sagement, paisiblement, avec la grâce de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, qu'il y a une manière de faire. Le Saint-Esprit est libre. On ne contriste pas le Saint-Esprit. On ne le verrouille pas. On ne le dirige pas. Mais Dieu et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, sait très bien que quand il y a une action, quand il va se manifester, c'est toujours dans l'ordre et la bienséance. Parce que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance. Donc si Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance, le Saint-Esprit aussi, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Quelques généralités, justement, je vais les souligner. Quelques généralités. Quant à la connaissance minimum, la connaissance, puisqu'on parle de ne pas être dans l'ignorance, quant à la connaissance minimum à posséder par rapport aux dons spirituels. La première, en Christ, écoutez bien, en Christ. De manière, c'est enregistré, vous pourrez y retourner si vous voulez. En Christ. Nous avons une relation personnel en Christ, nous avons une relation personnelle avec Dieu le Père. Et donc, nous avons en Christ, et ça a été rappelé ce matin par la Sainte Seine, nous avons en Christ, Jésus notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons cette relation personnelle avec Dieu, donc, un plein accès au trône de la grâce. Donc, les dons spirituels ne sont pas accordés pour occulter cette bénédiction en nous contraignant à dépendre de prophètes et de prophéties. Première, est-ce que vous avez compris cela? Je précise. S'il n'y avait pas lors d'un culte, un don spirituel, c'est pas pour ça que le culte est mauvais. Eh oui, parce que Dieu va quand même parler au travers des chants, il va parler au travers des louanges, de l'adoration des frères et sœurs qui vont m'édifier, il va parler au travers de la prédication de son serviteur. Et dans la prédication, il peut y avoir les dons spirituels, il y a souvent les dons spirituels, et entre autres, les dons de révélation. Deuxième, la Bible reste le moyen par excellence pour être conduit, j'insiste, hein, pour être conduit, pour être guidé et pour être enseigné. Alléluia. En dehors de la Bible, ça s'écroule, tout ce qui est dit. Quand vous appuyez sur la parole de Dieu, ça tient debout. Et Dieu honore sa parole. Dieu va tenir ses promesses. Dieu réalise les prophéties bibliques. Donc Dieu nous dit, le Seigneur nous dit, de revenir à sa parole encore et encore. Pourquoi ? Parce que les dons spirituels ne remplaceront jamais la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que les dons spirituels, normalement, doivent être vécus et exprimés et manifestés, comme dit l'apôtre Paul, selon l'analogie de la foi. Et l'analogie de la foi, c'est pas une expression difficile à comprendre, ça veut tout simplement, selon, dire simplement, selon la parole de Dieu, selon l'évangile, selon la doctrine de Dieu. L'analogie de la foi, c'est la parole de Dieu. Ils seront toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, il prend de ce qui est à Dieu et nous le donne. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit nous dirige constamment vers l'Écriture. Un don spirituel va toujours aller dans le sens de la parole. Ensuite, troisième, Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Et ça me réjouit. Parce que, excusez du peu, si on était encore sous l'ancienne alliance, je ne vous explique pas. Là, pour une bonne fois pour toutes, nous sommes pardonnés, justifiés, lavés de tout péché par l'agneau de Dieu, qu'est Jésus. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et il fallait recommencer. Les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, eh bien, ils décédaient les uns derrière les autres, parce que c'est ça, sur la terre, on va tous mourir à un moment donné. Donc, ils se succédaient constamment. Bref, tandis que Jésus, c'est la victime, c'est le souverain sacrificateur, c'est absolument tout ce qu'il faut, d'une manière définie, éternelle, pour le salut de quiconque croit en lui. Ceci étant dit, donc oui, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Car je rappelle qu'au niveau biblique, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le dit. Comme quoi, il faut que vous connaissiez votre Bible. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, concernant l'ancienne alliance, il va dire que dans la nouvelle alliance, il emploie un mot qui revient à plusieurs reprises, c'est le mot « meilleur ». Meilleur salut, meilleure espérance, meilleur... Vous relirez, faites une étude de l'Épître aux Hébreux. N'attendez pas que ça soit moi qui la fasse. Je la ferai peut-être un jour, cette étude de ce livre magnifique, de cet Épître. Mais il va rajouter ceci, que l'Ancienne Alliance, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, était l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir, alléluia, on y est. Amen. Parce que la Bible nous dit également que nous sommes, Apocalypse chapitre 1er, que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu notre Père. J'ai devant moi des sacrificateurs. C'est le même mot pour les dames. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, dans laquelle l'Esprit, en effet, en plus, je le rajoute, n'était donné qu'à quelques-uns d'une manière toute spéciale pour qu'ils puissent accomplir une mission. Aujourd'hui, le Seigneur est prêt à donner le Saint-Esprit et à nous donner de vivre les dons spirituels à qui que ce soit qui a cru en lui, fait la paix avec lui et dans la foi, dans la piété, certes dans l'obéissance, bien que c'est pas la cause première, on a compris, c'est une grâce, mais quand même il faut ses caractéristiques spirituelles. Si elles sont pas là, ou si elles ne s'y ont plus, ou si elles ont diminué dans votre vie, vous allez être dans l'église et vous allez vous ennuyer. Et vous allez avoir du mal à avancer. Et c'est la raison pour laquelle certains qui sont retournés en arrière et dans le péché, dans l'iniquité, dans des positions charnelles, vous les voyez plus. Malheureusement. Mais c'est pas fini. Ensuite, les dons spirituels ne sont pas un raccourci qui permettrait de faire l'économie, allez, j'insiste encore, oh, il est lourd ce pasteur, mais dans le bon sens, qui permettrait de faire l'économie de l'étude de la Bible, de la vie de prière personnelle et de l'ardente recherche de Dieu. Pardonnez du peu, mais les dons spirituels, excusez-moi l'expression, je la mets entre guillemets, ne sont pas la bonne aventure à la mode évangélique. Oui ? Oui ? C'est pas l'horoscope, les dons spirituels. C'est pas les expressions des 10 heures de bonne aventure, entre guillemets. J'insiste parce que peut-être certains n'ont pas bien compris. C'est pas l'exercice diabolique et occulte des guérisseurs qui se battent entre eux dans le Tarn pour avoir le plus de clients possible. C'est pas quelqu'un qui vient vous tirer des cartes. Tout ça, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Les dons spirituels n'ont rien à voir avec cela. Ils viennent de Dieu. Et ils nous ramènent vers la parole de Dieu. Ensuite, ils doivent être suffisamment précis, les dons spirituels, surtout les dons de révélation, les dons oraux, doivent être suffisamment précis pour ne pas créer du trouble. À partir du moment où un don spirituel crée du trouble, ça ne vient pas de Dieu. Et j'y reviendrai sur cette expression, parce que ce n'est pas la dernière partie du sujet, et j'espère que ça vous aide et que ça vous intéresse. Les dons spirituels sont là pour édifier, exhorter et consoler. Ils ne sont pas là pour lapider. Ils ne sont pas là pour détruire. Il faut qu'ils soient précis, les dons spirituels, pour ne pas créer du trouble, en faisant que tous se demandent ce qui vient d'être dit est réellement pour eux. Est-ce que c'est pour moi ? Les prophéties ayant un caractère personnel doivent, si elles ne sont de Dieu, permettre à celui à qui elles s'adressent de se reconnaître sans confusion possible. Et puis, étant donné que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit qui inspire les dons, est le même que celui qui révèle et glorifie Christ, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est dans Jean chapitre 16, ce que je vous ai cité tout à l'heure, le Saint-Esprit prend du Seigneur, il nous le communique, il nous ramène vers la vérité, il nous conduit vers la vérité, il ne vient pas pour parler de lui-même. Jean chapitre 16, versets 14 et 15. Donc il y a une pleine cohérence, et un plein accord entre leur contenu, des dons spirituels, et celui de l'annonce de l'évangile et du message de la croix, c'est la même chose. Parce que dans le message de la croix, dans le témoignage de l'évangile, quand je témoigne de ma foi, quand je parle à quelqu'un du Seigneur, il peut y avoir la manifestation, justement, des dons spirituels. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit « Mais attendez la promesse du Père, afin que vous soyez mes témoins, vous recevrez cette puissance, et vous allez donc vivre ainsi quelque chose qui édifie, quelque chose qui va être bon pour l'ensemble des hommes. » Parce que c'est lié à la croix, c'est lié au salut, c'est lié à toute la parole de Dieu, c'est lié au cœur de Dieu, c'est lié au cœur de Jésus. Le fait de parler du corps qu'est l'Église, dans lequel les croyants que nous sommes et que d'autres deviennent, ont été baptisés, précise bien que les dons spirituels sont rattachés à la pratique normale de la vie de l'Église et à la nécessité d'y être pleinement intégré. 1 Corinthiens 12, 13, c'est ce que dit Paul, je le cite à nouveau. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, tous, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le marginal, vous savez ce que c'est la marginalité ? On peut devenir un marginal dans l'Église. Ça, c'est grave, hein ? Parce que celui qui se met à l'écart, il cherche à faire ce qui lui plaît, dit le livre des Proverbes, et il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est-à-dire de la sagesse de Dieu. On ne parle pas de la sagesse d'en bas. Alors on peut se marginaliser pour des tas de raisons. Et donc on en arrive petit à petit, en se marginalisant, en se coupant du corps, à refuser son statut spirituel de membre, parce qu'on revendique son indépendance par rapport au corps, mais celui qui fait ainsi n'a pas compris que dans quel contexte Dieu accorde ses dons spirituels. Il y a deux extrêmes aussi mauvaises l'une que l'autre. Et je vais terminer cette deuxième partie. La première extrême, qui est mauvaise. Alors je vais employer des mots, mais vous les connaissez, hein. C'est l'extravagance. Tout le monde comprend ce mot. L'extravagance et la non-maîtrise de soi, en plus qui fait partie du fruit de l'esprit, Galates chapitre 5. opposée à la chair. La non-maîtrise de soi qui conduise au désordre. Un Corinthiens 14, verset 23, je lis le verset. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, alors, au fur des autres parties, ça s'éclairera tout cela aussi, hein. Et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas, dit Paul, il pose cette question, que vous êtes fous? C'est une bonne question ou une mauvaise question? On va dire c'est une bonne parce que c'est l'apôtre Paul qui la pose. Après, il parle de la prophétie qui s'exprime dans la langue maternelle, comprise par tous. L'apôtre Paul est en train d'expliquer que l'extravagance et la non-maîtrise de soi peut malheureusement choquer. Et elle peut créer du désordre. Et dans la même pensée, permettez que je rajoute ceci, il y a tous les fanatismes et toutes les déviations qui viennent de ce qu'on ne tient pas compte des points du paragraphe que j'ai évoqué tout à l'heure. Ou de tous les paragraphes évoqués tout à l'heure. Et puis il y a une deuxième extrême qui est mauvaise. Et on la trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 21. Et l'apôtre Paul dit, verset 19 même, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et rajoute, c'est pas pour rien, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Ne méprisez pas les prophéties. Je ne sais pas ce que vous comprenez là. Le texte qu'on retrouve, je fais un parallèle, hein, et je le rattache, ce parallèle entre deux textes. Celui qu'on vient de lire, 1 Thessaloniciens 5, versets 20, 21, 19 à 21, et 1 Corinthiens 13, où l'apôtre Paul, à un moment donné, dit que les dons cesseront. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Paul dit que les dons cesseront, oui, mais il dit que les dons cesseront quand ce qui est parfait sera venu. En définitive, l'apôtre Paul, il parle de quoi? Il parle de l'état final qui sera manifesté au retour du Seigneur lorsqu'il viendra chercher l'Église. Et la deuxième partie de son retour, lorsqu'il viendra ensuite poser ses pieds sur le mont des Oliviers pour libérer Israël et pour établir son règne millénaire sur la terre selon les prophéties de la Bible. Jusqu'au dernier jour, dernier temps où tout s'arrêtera, tout passera. Mais Dieu a préparé des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est pas ici, hein. Parce qu'elle va mal, hein. Non, parce qu'il y en a qui croient. Il y a certains milieux religieux qui croient que c'est sur cette terre qu'il y aura le ciel et le paradis. C'est pas du tout biblique. C'est pas ce que Jésus dit. Donc, 1 Corinthiens 13, 8 à 12, c'est ce que dit Paul. Et en attendant cet état final, les dons spirituels sont une promesse qui a encore et plus que jamais, sa raison d'être aujourd'hui, là, aujourd'hui, le 3 juin 2018, ça sera vrai demain si le Seigneur nous fait grâce, ça sera vrai au mois de juillet, au mois d'août, même pendant les vacances. Ça sera vrai à la rentrée, alléluia. Et je disais que je suis un vif défenseur, et vous avec moi certainement, de la vie de l'esprit. Et ceux qui sont nés de nouveau, je les enseigne, je le fais dans l'église, je le fais dans mes visites, je leur dis, mais cherchez le baptême du Saint-Esprit par la foi, la prière, alléluia, s'il y a la piété, l'obéissance, la foi, tout cela va venir dans votre cœur et vous allez pouvoir vivre quelque chose de fort autour de vous pour l'édification commune. Ah, pasteur, ça vaut le coup, ça, d'essayer. Non, n'essayez pas, vivez-le. Le mépris, cette deuxième extrême, et j'ai dit que je termine. Le mépris est aussi le fait de traiter ces grâces par l'indifférence ou le rejet. C'est ça, ne méprisez pas les prophéties, ne méprisez pas les dons spirituels. Alors, oh, je suis indifférent. Mais vous avez des chrétiens dans nos églises évangéliques de Pentecôte qui sont indifférents. Je fais pas de j'émets pas de jugement, mais pourquoi sont-ils indifférents? Pourtant ils sont enseignés, pourtant il y a tout ce qu'il faut pour comprendre eh bien cette réalité biblique merveilleuse. Mais ils sont indifférents. Alors peut-être parce qu'ils ont peur, peut-être je ne sais. Ou tout simplement ils le rejettent. Mais quand on est dans cette attitude-là, on peut tomber au moment où il y a un don spirituel manifesté dans l'Église pour l'utilité commune et dirigé par le Saint-Esprit, parce que c'est appuyé et fondé sur la parole de Dieu et l'amour de Dieu. Alors là, ce qui peut devenir grave, si on est dans cette attitude-là, cette extrême qui est mauvaise, c'est de commencer à dire « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et à ce moment-là, c'est grave, parce que ce n'est pas contre la personne qu'est l'instrument, c'est contre Dieu et le Saint-Esprit que nous sommes en train de parler ainsi. Vous avez lu avec moi, retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas, ne rejetez pas, ne soyez pas indifférents, mais retenez, vivez. Alors à ceux qui croient dans leur réalité des dons, je parle des dons spirituels, et dans leur pratique de faire aussi en sorte que ceux qui les voient et qui les entendent puissent en aucun cas, j'insiste, les mépriser. J'irai un peu plus loin la prochaine fois, c'est-à-dire dimanche prochain, Dieu voulant, et je continuerai avec le fait de comprendre la nature des dons spirituels. Et je vais ainsi, et même si je pars en vacances que j'ai pas fini, quand je reviendrai de congé, je continuerai. Parce que c'est un sujet qui nous amène dans une direction des plus excellentes. Parce que tout est inclus, vous l'avez compris, le salut, l'obéissance, la foi, la piété, tout y est. Tout y est. Mais dans l'ordre et la bienséance. Merci Seigneur. Que c'est bon d'être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Que c'est bon de prendre le temps de la méditer, de chercher, de comprendre, de creuser. Seigneur, nous voulons être comme ces personnages de la Bible qui, de par leur témoignage, sortent au milieu des autres, du milieu des autres. Il y a Esdras, qui était un homme de la parole. Il y a Apollos, qui était un homme versé dans les Écritures. Il y a l'apôtre Paul, qui était un homme qui méditait ta parole et qui encourage le jeune Timothée à faire de même. Seigneur, nous nous rendons compte que tout nous conduit à lire, à plonger nos regards dans ces bonnes choses qui nous permettent d'avancer, de progresser, de nous édifier. Merci pour les dons spirituels. Merci pour la vie de l'Esprit. Et je prie pour que dans l'église de Groyer, Seigneur, où tu nous donnes la joie de te servir, nous puissions voir les plus anciens, les plus jeunes, continuer à aller de progrès en progrès, que leur progrès soit évident de tous, dans le domaine de la connaissance de Dieu, dans le domaine de la connaissance de Jésus, du Saint-Esprit, des dons spirituels, de la doctrine de Dieu, des témoignages spirituels qui édifient. Bénis ton Église. Merci pour ton aide. Merci Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen.